Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Mélomanie, c'est le 242e numéro de votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Nous sommes un peu à la croisée des chemins ce début d'octobre quasi estival. Et estival, ça rime avec festival. Piano Jacobin s'est terminé vendredi par le magnifique concert d'Elisabeth Leonskaya, le jour même où s'ouvrait à Montauban la 9e édition de Passion Baroque. Et déjà, ce mercredi 4 octobre à la Basilique Notre-Dame de la Dorade, commence le 28e Festival Toulouse des Orgues. Ça n'arrête pas, comme vous pouvez le constater, d'autant plus que se poursuivent toute cette semaine les représentations des Pêcheurs de Perles à l'Opéra National du Capitole et qu'ont lieu, le week-end prochain, les premiers concerts de la saison Toulouse Guitare. Samedi dernier a été donné le concert qui lance la saison de l'Orchestre National du Capitole à la Halle aux Grains. Allez donc vous y retrouver dans tout ça. Nous allons toutefois nous y essayer avec mes deux invités du jour. Je salue tout d'abord mon fidèle complice Serge Chosy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Et je salue notre invité d'honneur, l'organiste Yves Rechsteiner, directeur artistique du festival Toulouse des Orgues. Sans plus attendre, nous allons nous replonger dans l'actualité musicale la plus récente. Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bonjour Serge, bonjour Yves,
bonjour.
Bienvenue aussi
bonjour.
À tous les deux. Nous allons revenir une dernière fois sur la 44e édition du festival Piano Jacobin qui s'est donc conclue vendredi dernier par le très attendu concert d'Elisabeth Leonskaya. Mais avant cela, le 26 septembre, a eu lieu la première au festival et à Toulouse d'un pianiste à peu près inconnu dans notre pays, le tchèque Jan Bartos. Serge Chosy, qui était impatient de découvrir ce musicien, était présent au cloître des Jacobins ce soir-là. Et je crois que vous n'avez pas été déçu par ce que vous avez entendu, loin de là, Serge.
Ah, loin de là. Écoutez, il s'agit en plus de la première apparition de Jan Bartos en France. Et donc, on peut vraiment remercier le festival Piano Jacobin de faire coexister des grands habitués qui reviennent presque tous les ans et de toute jeune pousse que l'on découvre au fur et à mesure des festivals. Et cette fois, c'était vraiment une belle découverte puisque ce pianiste tchèque eh bien, n'a joué que de la musique tchèque. Et pas toujours de la musique très connue. Hein. Notamment, il a commencé par... 8 préludes pour piano d'un certain Miloslav Kabelač, que j'ai découvert ce soir-là, bon, qui est un compositeur du début du XXe siècle, hein. Un compositeur qui a hérité de Janáček, c'est évident, hein. On l'entend dès les premières notes de ces fameux 8 préludes pour piano, donc opus 30.
Ils sont si fameux que ça
En République tchèque, c'est très connu. D'ailleurs, Jan Bartos a enregistré des pièces de Kabelač, donc je précise qu'il est né en 1908 et mort en 1979 à Prague. C'est vraiment...
Ouais, pleinement XXe siècle.
Ah oui, complètement. Alors, dans ces 8 préludes pour piano qu'il a joué, il y a une recherche de sonorité profonde et d'une couleur, d'un déploiement de couleurs et de rythmes variés qui vraiment ont impressionné. Hein. Ça a été vraiment magnifique. Ensuite, au cœur de ce récital, c'était... deux œuvres de Leoš Janáček, des œuvres relativement connues, puisque la première s'appelle Sonate du 1er octobre 1905. Alors c'est cette sonate qui lui a été inspirée par la mort d'un ouvrier qui a été tué en 1905, donc le 1er octobre, au cours d'une manifestation à Brno. Et donc avec deux mouvements, le pressentiment et la mort. Alors on peut imaginer ce que ça signifie quand on connaît le style très expressionniste de Janáček. Il a joué ça de manière formidable. Hein. C'était très, 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 très beau. Ensuite, deuxième œuvre d'un tempérament très différent de Janáček, qui s'appelle Dans les brumes.
Oui, In the Mist.
Mais c'est une œuvre relativement jouée hein, de Janáček. Et là, il y a une sorte de mélange d'impressionnisme, un peu à la Debussy par moment, et puis d'une poésie avec une saveur que, pour ma part, je trouve particulièrement Mitteleuropa. Exactement. Donc, très beau moment que ce cœur du récital. Ensuite, eh bien, il est passé à un compositeur plus antérieure, Bedřich Smetana, que l'on connaît bien, mais on ne connaît pas beaucoup ses œuvres pour piano solo.
On connaît surtout la Moldo, voilà.
Oui, la Moldo et certains opéras, mais, ouais. Mais bon, on ne connaît pas bien. Hein. Et là, vraiment, on découvre un style de musique soliste vraiment très très belle. Et là, il a joué 6 pièces caractéristiques pour piano, des pièces qui datent de 1875, donc c'est bien antérieur à toutes les œuvres que l'on avait entendues avant, avec cette joie mêlée à la nostalgie typique. Et là, il a fait preuve d'une finesse et en même temps que d'une virtuosité, parce qu'il y a certains passages dans ses pièces qui sont hautement virtuoses. Il a fait ça avec beaucoup, beaucoup de style. Un très, très beau moment qui a été très apprécié du public, qui est venu nombreux.
Oui,
on avait la crainte
que ce programme
n'attire pas le grand public. Eh ben, le grand public.
Pianiste inconnu avec un programme où la plupart pas des connu. Compositeurs ne sont pas très connus non plus.
Oui, oui, oui. Donc, non, ça a vraiment été une belle soirée qui a été très applaudie. Et donc, il a joué un bis. Un bis, alors, pas étonnant, un bis de Leo Janáček, de nouveau, avec. Un extrait des 15 pièces pour piano sur un sentier recouvert. Alors, quelquefois, on traduit par sentier herbeux, d'autres fois un sentier broussailleux. Alors, je ne sais pas en tchèque comment on dit cela. Je préfère ne pas m'y lancer. Et donc, il a fini de nouveau par une œuvre tchèque typique. C'était un très, très beau moment.
Eh bien, pour découvrir le son et le jeu de Jan Bartos, je vous propose de l'écouter dans la troisième pièce Andantino du cycle In the Mist, autrement dit Dans les brumes, de Leo Janáček. La troisième pièce Andantino du cycle In the Mist, dans les brumes, composée par Leos Janáček et jouée ici par Jan Bartos, un pianiste qu'on aura peut-être l'occasion de revoir dans les prochaines années à Piano Jacobin, dont l'édition 2023 s'est donc terminée par le récital d'Elisabeth Leonskaya vendredi dernier, une soirée donnée à guichet fermé et qui affichait d'ailleurs complet depuis longtemps. Serge Chosy, vous êtes un admirateur de longue date de la grande pianiste russe et vous assistiez bien sûr à son concert. Il semble qu'il ait été très apprécié. On peut même dire qu'elle a eu droit à un triomphe arrivant et en partant.
Exactement. Bon, effectivement, bon, c'est une grande dame. C'est la reine Elisabeth, on peut dire. Hein.
Bah, elle vient depuis tellement longtemps à Piano Jacobin.
Ah oui, oui, oui. C'est 86, une habituée. Et elle aime bien. Elle aime bien. Hein. Vraiment, elle a une tendresse pour le lieu,
elle est de la famille.
Pour le public, donc ça se sent. Et bon, c'est une pianiste bon, qui, je ne voudrais pas dévoiler des âges avancés, mais elle a 77 ans.
Voilà. Hein.
Et elle joue avec une énergie et une passion incroyables. Et elle avait consacré tout ce récital à un seul compositeur, Franz Schubert. À l'image d'ailleurs d'Anne-Marie McDermott, une semaine avant, qui elle aussi avait consacré...
Schubert a été à la fête un peu tout au long de ce festival 2023.
Donc, Ça, c'était vraiment impressionnant. Et puis alors, dès le début, et ça c'est Catherine Dargoubet qui l'a annoncé, la pianiste a décidé de dédier son récital à Nicolas Angelich.
Apparemment, ils étaient liés, oui.
Qu'elle connaissait bien, qu'elle aimait beaucoup, et qui a été récemment, on peut dire trop tôt, disparu. Hein, donc,
mort en avril 2022, ouais, il y a à peine un an et demi. Hein.
Ah oui, oui, donc elle lui a dédié tout ce concert. Et là, tout au long de la soirée, on peut dire que s'est exprimé un talent de musicienne plus que piano. Le piano lui sert à faire de la musique. Voilà, ça n'est pas une acharnée du clavier.
Du sans faute.
Non, c'est pas ça du tout. Et donc, elle possède un sens que j'ai trouvé pour ma part un peu magique de la polyphonie. Vraiment, on entend absolument tout. L'équilibre entre les voix est parfait. Alors, elle a commencé par la sonate numéro 7 en mi mineur, la Deutsche 566. Alors, qui a une histoire particulière et compliquée. En fait, elle est restée inachevée puisqu'elle n'a que 3 mouvements. Mais les successeurs de Schubert lui ont adjoint comme finale l'Allegretto moto, le Deutsche 506. Artificiellement, hein, on peut dire. Et donc, elle n'a joué que les 3 mouvements signés vraiment de Schubert, édités par Schubert, et avec, là aussi, cette manière de jouer Schubert comme un peu un sourire à travers les larmes, cette espèce de sensibilité à fleur de peau, c'était merveilleux. Et puis, la suite, c'était la sonate numéro 21, l'une des 3 dernière sonate de Schubert qu'il a composée 2 mois avant sa mort. Hein. Là aussi, alors, il y avait à la fois angoisse et passion, et il y avait une espèce de touchante tendresse, comme on le sait, dans les mouvements lents. Et puis le final, qui est sur un rythme de tarentelle, et qu'elle a joué comme s'il s'agissait d'une course inquiétante. On ne sait pas si c'était une course vers la mort ou vers la joie. C'était très ambigu et très bien fait. Et enfin, la dernière sonate, c'était la numéro 18 en ré majeur, Deutsch 845, qui a complété ce panorama et qu'elle a magnifiquement éclairé par un jeu à la fois lumineux et passionné, avec une force, une intensité impressionnante. Vraiment un très beau moment, avec des contrastes entre grâce légère et virtuosité, comme toujours. Donc elle domine vraiment ce répertoire. C'était très impressionnant. Elle a donné un bis, et le bis, elle a quitté Schubert pour Chopin, un magnifique nocturne de Chopin. Et on peut supposer qu'il représente l'hommage de la pianiste à Nicolas Angelich. Elle a terminé là-dessus. Donc c'était un moment à la fois émouvant et très intense.
C'est probablement effectivement qu'elle ait choisi un nocturne de Chopin, voilà, pour d'abord quitter le public et puis rendre un dernier hommage à Nicolas Angelich.
Qui était un grand interprète de Chopin d'ailleurs.
Et qui était un fidèle de piano jacobin, on l'a entendu très souvent, ouais. Avec l'Orchestre National du Capitole aussi, combien de fois, enfin bon voilà. On va écouter Elisabeth Lenskaya dans ses œuvres un court instant avec cette interprétation du 4e mouvement Allegro de la 19e sonate, la Deutsche 958 de Franz Schubert. Le 4e mouvement Allegro, court extrait de la 19e sonate D958 de Franz Schubert, interprété par Elisabeth Leonskaya, une des pièces jouées par la grande pianiste russe lors du concert de clôture de piano jacobin, une 44e édition qui aura été un véritable succès public et artistique, comme l'a été le concert de reprise de l'Orchestre National du Capitole samedi dernier à la Halograin, où Serge Chosie était encore présent, la halle était archi-comble pour cette soirée de lancement de la saison 23-24 de l'ensemble symphonique toulousain. 2200 personnes s'étaient massées dans la halle pour ce concert et l'une des attractions était les débuts à Toulouse du grand chef allemand Marek Janowski à l'âge de 84 ans, s'il vous plaît. Serge, comment s'est passée cette première où Schubert était encore de la fête?
Mais oui, et pas que Schubert, il y avait également Beethoven, donc un programme qu'on peut qualifier de populaire au sens noble du terme. Hein. Effectivement, c'est la première fois que Marek Janowski venait à Toulouse, et c'est la première fois qu'il dirigeait l'Orchestre National du Capitole, et ça s'est très très bien passé. Donc, comme vous avez dit, la halle était pleine à craquer, il y avait un monde fou, ça a eu un immense succès, et donc il a donné deux symphonies, la première de Beethoven et la dernière de Schubert, la 9e. Alors, ça a beau être la première de Beethoven et la dernière de Schubert, elles ont été toutes les deux composées par un homme de 30 ans. 30 ans pour Beethoven pour sa première et 30 ans pour Schubert pour la 9e, dite grande
symphonie. Il est mort quelques années après, le malheureux.
Oui, eh ben oui, il est mort un peu après, donc il n'a même jamais assisté à l'exécution de cette symphonie.
Il l'a achevé en 1825, hein. Oui. 2 ans avant sa mort.
Oui, voilà. Oui, mais elle n'a jamais été jouée de son vivant. Il a attendre Mendelssohn pour la diriger sous l'impulsion de Robert Schumann.
En tout cas, c'est la dernière qu'il a achevée.
Ah, oui, oui, ah, c'est ça, oui, exactement. Donc, bien, on a découvert le style de direction, qui est un style extrêmement précis et très, mais vraiment
minutieux.
Très minutieux de ce chef Marek Janowski, qui d'abord manifeste une vitalité, un élan que je qualifierais de juvénile dans cette première symphonie de Beethoven, qui était impressionnant. Ce que l'on a le plus observé et admiré, c'était la clarté du discours, la transparence de la structure générale. On entend absolument toutes les voix, donc la lisibilité du texte musical est exemplaire. Et donc, alors il y a des arêtes vives, hein, le premier mouvement de cette première symphonie, il l'a pris de manière très vive et très, très animée, magnifiquement, avec pour les deux mouvements, le premier et le dernier, un début de mouvement adagio, avant que l'on passe au cœur de l'œuvre, donc, qui est très animé. Ensuite, il a joué, dirigé donc la 9e de Schubert, alors très différent évidemment, avec toujours la même lisibilité de la structure polyphonique, avec là aussi un déploiement des beautés sonores des musiciens. Il faut souligner là, vraiment la beauté, la grandeur, la musicalité de ces musiciens qui jouent magnifiquement sous sa direction. Et je sais qu'ils l'ont apprécié, ils ont apprécié la direction du chef.
J'étais impatient de jouer avec lui.
Oui, absolument. Au point que, alors ça ne trompe pas, à la fin, évidemment, il a été très applaudi, les musiciens aussi. Et puis, au dernier salut, les musiciens ont refusé de se lever pour laisser
le triomphe
au chef, donc à l'invité. Et donc, ça s'est magnifiquement terminé. Et donc, voici un beau début de saison symphonique.
Bah, une salle comble pour reprendre la saison. Oui. Quoi de mieux? Oui. Eh bien, voici un extrait de la symphonie numéro 9, la grande de Franz Schubert, son deuxième mouvement Andante con moto. Et c'est une version de l'Orchestre National du Capitole, placée ici sous la direction de Léo McFaul. Thank you. le deuxième mouvement Andante con moto de la symphonie numéro 9, la grande de Franz Schubert, une version de l'orchestre du Capitole dirigée par Léo McFaul. C'était un enregistrement de 2021 lors d'un concert à la Halle aux Grains. Fin de cette première partie d'émission, petite virgule musicale, et l'on se retrouve en compagnie de Serge Chauzet et Yves Rechsteiner, notre invité d'honneur. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
L'agenda de Mélomanie avec Serge Chauzy et Yves Rechsteiner, le directeur artistique du festival Toulouse les Orgues. La 28e édition commence officiellement ce mercredi soir à 20h à la basilique Notre-Dame de la Dorade. Le concert d'ouverture est donné par le chœur Dulci Jubilo, dirigé par son fondateur Christopher Gibert, accompagné à l'orgue par Thomas Hospital. Nous allons vous en dire plus dans quelques instants. Avant cela, Yves, un petit mot d'ordre général sur votre programmation qui s'étale donc du 4 au 15 novembre. Est-ce qu'il y a une thématique particulière à ce festival 2023, comme ça a pu être le cas lors d'éditions précédentes?
J'essaye de trouver une thématique. Cette année, elle s'appellerait l'orgue intime. Donc, nous pourrons développer ça un peu plus tard.
On va évidemment en parler. Alors, concert d'ouverture ce mercredi 4 octobre, donc, à la basilique Notre-Dame de la Dorade, avec le chœur Dulci Jubilo dirigé par Christopher Gibert, accompagné à l'orgue par Thomas Hospital. Le programme est intitulé « Le souffle de l'âme ». Vous allez nous expliquer pourquoi, mais il faut qu'on présente d'abord ceux qui vont le donner. Et en premier lieu, ce jeune et talentueux chœur Dulci Jubilo, qui est en quelque sorte un pur produit de la formation musicale régionale et même toulousaine. La plupart de ses membres, à commencer par son fondateur, sont tous passés par le Conservatoire à rayonnement régional de Toulouse.
Tout à fait, et Christopher Gibert fait là depuis quelques années un travail extrêmement actif sur le développement de son chœur, avec des programmes qui sont toujours très très bien fabriqués, très très bien pensés. Il a aussi beaucoup de succès, puisqu'on le trouve également programmé cette année aux Arts Renaissants. Donc en fait, voilà, c'est aussi notre vocation à nous, festival, de soutenir des ensembles dont on voit qu'ils ont une progression qui est continue, et on ne sait pas à quelle hauteur ça va arrêter. Mais justement, je connais le travail de Christopher, là c'est là sa première invitation à Toulouse les Orgues, mais par contre je connais très bien Thomas Hospital, qui est déjà venu nos deux fois et qui est une, on va dire, au moins une valeur sûre de l'orgue français.
Le petit génie de l'orgue originaire du Pays Basque, Hospital, ça ne me trompe pas, qui vient de, c'est assez récent, d'être promu, titularisé, enseignant à la classe d'orgue du CNSM de Paris. À quoi, il a 35 ans,
c'est
exceptionnel.
Oui, c'est un parcours tout à fait brillant, comme il y en a extrêmement peu. Donc il est aujourd'hui professeur au Conservatoire supérieur de Paris. Il est l'un des deux professeurs d'orgue aujourd'hui avec Olivier Latry. Et bon, je l'ai entendu improviser là il y a une heure à la Dorade, et on se tait, on écoute.
Le titre du programme, c'est Le souffle de l'âme. Alors ça, je crois que c'est lié à un CD qui devrait sortir d'une œuvre de Thierry Esquèche enregistrée par le chœur Dulci Jubilo.
Oui, alors le programme est relativement hétérogène en termes de styles musicaux, puisqu'il y a du Gesualdo en pièce a cappella, il y a également du Brahms avec un accompagnement d'orgue, et il y a quelques pièces de Thierry Esquèche. D'ailleurs, c'est un programme qui tourne tantôt avec Thomas Hospital à l'orgue, tantôt avec Thierry lui-même qui joue ses propres œuvres. Mais c'est vrai que ces œuvres-là jouent un rôle central, et c'est très intéressant parce qu'évidemment Thierry Esquèche est un compositeur et organiste. Il arrive à écrire une partie d'orgue qui est beaucoup plus développée que ce que ne sont généralement les soutiens harmoniques que fournit l'orgue aux voix, alors que là, véritablement, l'orgue est un partenaire à part entière qui dialogue avec le chœur.
Christopher Gibert, je le précise, en dehors du fait qu'il est chef de chant, chef de chœur, il est également organiste et compositeur lui-même. Ça crée des liens. Thomas Hospital, est-ce qu'il va intervenir entre les pièces chantées en improvisant, par exemple, ou en jouant des, voilà.
Oui, tout à fait.
Il y aura des pièces pour orgue solo.
Voilà, il y aura bien sûr des pièces d'orgue seul. D'ailleurs, il circulera un peu entre différents instruments à la Dorade. Donc oui, c'est un programme dans lequel il y a un bel équilibre entre la partie vocale, soit qu'elle soit a cappella, soit accompagnée, et puis évidemment quelques moments d'orgue seul.
Eh bien, nous allons avoir un petit aperçu du programme du concert d'ouverture donné par le chœur Dulci Jubilo avec cet extrait du Souffle de l'âme, la pièce de Thierry Esquèche.
Oh,
un extrait du Souffle de l'âme, la pièce de Thierry Esquèche qui donne son nom au programme que va interpréter le chœur Dulci Jubilo sous la direction de Christopher Gibert et accompagné à l'orgue par Thomas Hospital ce mercredi 4 octobre à 20h à la basilique Notre-Dame de la Dorade. Ce sera le concert d'ouverture de cette édition 2023. Il y a une trentaine de propositions dans le programme de cette 28e édition. On ne va pas toutes pouvoir les présenter. Je propose qu'on s'intéresse d'abord au concert en soirée. Dès le lendemain du concert d'ouverture, jeudi 5 octobre, il y a le récital du grand organiste Gunnar Hindenstam à la basilique Saint-Sernin. Ce concert a un sous-titre un peu intriguant, Metal Angel. Qu'est-ce que nous allons y entendre sous les doigts de ce musicien suédois qui est une figure un peu à part sur la scène internationale de l'orgue, Yves?
Alors, c'est un musicien qui sera très à l'aise sur le grand orgue de Saint-Sernin, qui a une certaine puissance expressive. En fait, ces deux styles de musique en un même concert. Dans la première partie, il jouera une grande sonate pour orgue d'un élève de Franz Liszt, qui s'appelait Julius Raupke, qui est une pièce vraiment beaucoup calquée sur une œuvre de son maître et qui est une pièce très impressionnante avec vraiment des éclairs de génie. Alors Julius Raupke est mort à l'âge de 26 ans, alors malheureusement il a très peu composé, mais la pièce est fantastique, donc ça mettra déjà vraiment l'orgue en perspective, mais dans un langage vraiment romantique, on ne peut plus typique. Et Metal Angel, en fait, ce sont des compositions de Gunnar Hindenstam lui-même, des compositions alors qui sont un peu inspirées du rock progressif. Il dit lui-même que c'est la musique qui l'influence le plus. Et donc, en deuxième partie de concert, on a quelques pièces qui font partie, en fait, d'un ensemble de pièces. Donc, il a fait un choix personnel parmi cet ensemble. Et ce sont des pièces dont il dit lui-même, c'est très contrasté. Ça s'inspire un peu du gothique fantastique. Il y a des pièces très fortes, très violentes. D'autres pièces beaucoup plus méditatives et planantes. Donc, on est sur un style musical très différent. Et je trouvais amusant de mettre en regard, comme ça, deux univers musicaux au travers du même interprète.
Alors c'est une des propositions insolites de cette édition 2023. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup d'autres. Le même jour, à 20h, il y a un concert de l'ensemble La Sportelle à l'église de Fronton, un concert délocalisé, donc je ne sais pas si c'est le bon terme. Et il s'agit encore d'une formation vocale de notre région, basée à Rocamadour. Celle-ci, Rocamadour, c'est le village de naissance de Christopher Gibert dont nous parlions tout à l'heure. Là, il y a un programme Bach Mendelssohn,
c'est accompagné alors par Aymeric Rollin. Donc en fait, là, on est dans un programme où l'équilibre est un peu similaire à ce que je décrivais tout à l'heure pour le concert d'ouverture, mais strictement avec des musiques de Jean-Sébastien Bach et de Félix Mendelssohn. Et c'est un programme, c'est un choix qu'a fait le chœur et puis l'organiste de différentes œuvres qui sont souvent d'ailleurs retravaillées pour l'orgue seul, bien qu'à l'origine pour des formations d'orchestre. Mais c'est un très beau programme. Moi, je l'ai entendu là maintenant deux fois. Et c'est un chœur que nous avions accueilli à Toulouse-les-Orgues l'année passée.
Au Temple du Salin, j'y étais.
Au Temple du Salin, et que nous avons le plaisir là de partager en fait avec un lieu qui n'est pas situé à Toulouse-Centre. Il ne faut pas oublier que Toulouse-les-Orgues, c'est aussi une activité hors les murs de la ville. Et donc la mairie de Fronton a souhaité faire un partenariat avec nous et nous étions très heureux de pouvoir travailler sur ce programme.
Voilà, ce programme qui a été donné en ouverture du dernier festival de Rocamadour il y a quelques semaines, vendredi 6 octobre, premier concert à l'église du Jésus à 21h, c'est votre port d'attache et vous proposez quelque chose de très particulier mais de circonstance, un rugby concert. Personnellement, je trouve ça à la fois très original et très malin, hein, puisque les gens ne pourront pas dire « Ah, je ne vais pas au concert parce que je veux voir le match ». Là, on peut aller au concert et voir le match en même temps. Bon, certes, sans les commentaires, mais parfois, ce n'est pas plus mal. Et donc, c'est l'organiste Jérémy Joseph qui va improviser en direct sur les images du match de Coupe du Monde France-Italie. Il a accepté ce challenge immédiatement parce que ça me paraît pas aisé à relever tout de même comme défi.
Surtout qu'en réalité il a fait l'objet d'un changement de braquet de ma part, parce que dans un premier temps je l'avais invité à faire un ciné-concert ou en tout cas à improviser sur les musiques de films. Et c'est après ça que dans l'équipe de TLO on s'est dit mais on est percuté en plein par la Coupe du Monde de rugby, donc pourquoi pas faire un petit événement en diffusant le match et en faisant une sorte de ciné-concert mais avec un match de rugby. Et du coup j'ai rappelé Jérémy Joseph en lui disant est-ce que vous accepteriez non pas d'improviser sur un film mais d'improviser sur un match. Ce qui est plus challenge, parce que le film, vous pouvez le voir avant, tandis que le match, vous ne pouvez pas le voir avant.
Non, il peut arriver des choses complètement improbables. Un arrêt de jeu de 5 ou 10 minutes pour une blessure. Revisionne les images pour valider un essai à la vidéo. Donc, il y a beaucoup de temps mort, si on peut dire.
Oui, et puis après, il y a beaucoup de manières d'aborder ça sur un plan musical.
Après, parce on peut l'habiter de façon musicale. Voilà, chaque moment peut être habité de façon musicale.
Je suis moi-même. suis moi-même très curieux de voir en fait quelle sera son approche technique. Parce qu'il a aucun moyen de se préparer. Mais il a effectivement pris 3 jours de réflexion avant de me dire, j'ai vu que Honegger avait des choses sur le rugby et tout il était partant.
Il va pouvoir s'imprimer.
Une fois, on aura un commentaire musical au lieu d'un commentaire verbeux.
Absolument, c'est pour ça que je disais, c'est peut-être pas forcément plus mal de ne pas avoir
les commentaires
en direct. Donc ça, c'est à 21h le 6 octobre. Le lendemain, le samedi 7 à 20h, la cathédrale Saint-Étienne. Alors, nouveau rendez-vous avec une formation issue de notre région, l'ensemble Organum, bien connu de Marcel Pérez, basé à Moissac, qui propose un programme de chants polyphoniques corse. Mais il faut préciser les choses, ce sont des chants recréés à partir de manuscrits franciscains du XVIIe siècle, c'est ça?
Oui, alors Marcel Pérez, moi j'aime beaucoup tout ce qu'il fait depuis longtemps parce qu'il a défriché quand même les pratiques des musiques médiévales sous une approche un peu novatrice. Et il y a deux choses à retenir dans ce programme. D'abord que Marcel Pérez va improviser à l'orgue, ce qui est relativement rare parce qu'en fait il chante la plupart du temps. Mais il improvise assez peu, donc je suis moi aussi là très curieux de le découvrir comme organiste improvisateur. Et ensuite, les pièces vocales sont une messe conservée en Corse, une messe qui date probablement du XVIIe siècle.
A priori, oui.
Et cette partition d'époque conservée en Corse montre en réalité différents types d'influences musicales qui ont eu lieu en Corse à cette époque-là. Et donc effectivement, on a appelé ça polyphonie corse parce que ça parle à tout le monde. Mais je pense que la musique est plus complexe simplement que ce qu'on entend généralement par polyphonie corse.
Voilà, le concert est sous-titré « La face cachée du baroque ». Et donc ce sont des manuscrits qui ont été conservés à Bastia. On va écouter un extrait de ce programme, l'ensemble Organum qui interprète un chant, c'est un Sanctus, donc issu de manuscrits franciscains du XVIIe siècle. Un Sanctus, chant corse du XVIIe siècle, interprété par l'ensemble Organum, dirigé par Marcel Pérez, un de ceux au programme de leur concert « La face cachée du baroque », donné samedi 7 octobre à 20h à la cathédrale Saint-Étienne. Et le dimanche 8 octobre à 17h, c'est à la chapelle Sainte-Anne de Toulouse que ça va se passer. Vous avez invité le jeune ensemble Léviathan, qui présente un programme intitulé « À l'ombre des lumières ». Quelles œuvres et compositeurs sont au menu de ce concert de fin d'après-midi?
Alors en fait, on est sur des œuvres baroques françaises, 18e siècle français. Il y a un mélange d'œuvres vocales, donc pour une voix et basse continue, et également des sonates. Et l'ensemble Léviathan est composé beaucoup d'instruments de basse. C'est pas des violons et des choses comme ça, mais on a plutôt une viole de gambe, un violoncelle, un basson, l'orgue, et puis la voix lumineuse de la chanteuse dont j'oublie présentement
Eugénie
le nom.
Eugénie Lefebvre.
Merci Eric de venir à mon aide, à mon secours. Et effectivement, ils ont fait un très très joli joli choix de pièces. Hein, quand même, la constitution d'un programme, ça commence par choisir des belles pièces. Et il y a des choses sublimes, vraiment, dans des pièces pour le temps de la passion. Et ça donne, en fait, une couleur particulière d'avoir un ensemble comme ça qui est très riche en basse. Parce que du coup, c'est quelque chose de relativement rare. Hein, et la responsable de l'ensemble, donc Lucille Tessier, qui est la bassoniste, est quelqu'un que je suivais depuis un moment déjà, parce que je l'avais connue il y a plusieurs années lorsqu'elle était étudiante au CNSM de Lyon.
Le titre, sans doute, à l'ombre des lumières, le côté à la fois basse, là, puis la voix lumineuse au milieu de Jenny Lefèvre. Eh bien, on va pouvoir la découvrir, cette belle voix de Jenny Lefèvre. On va écouter un petit extrait de ce programme à l'ombre des lumières, interprété par l'ensemble Léviathan. Un extrait du programme à l'ombre des lumières que donne donc l'ensemble Léviathan dimanche 8 octobre à 17h à la chapelle Sainte-Anne de Toulouse, un concert de fin d'après-midi. Le mercredi 11 octobre au Temple du Salin, une proposition inattendue comme Toulouse des Orgues en a le secret, une version de La Voix humaine, l'œuvre de Francis Poulenc, composée sur le texte du fameux monologue théâtral de Jean Cocteau, qui va être accompagnée à l'orgue. Alors j'aimerais savoir qui est derrière cette proposition, parce qu'il s'agit là encore d'une véritable curiosité.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est une carte blanche que j'ai donnée à Johan Tardivel lorsqu'il est arrivé comme nouveau professeur au CRR de Toulouse. Je lui ai un peu dit, je te propose de faire un projet dans le sein de Toulouse les Orgues. Qu'est-ce qui te motiverait? Alors évidemment, il aurait pu faire un récital d'orgue comme il saurait en faire un très très beau d'ailleurs. Mais il m'a dit, j'ai un petit rêve, un petit fantasme depuis pas mal d'années. J'aimerais travailler avec Anne-Catherine Gillet, qu'il connaît, la magnifique soprano belge, qui est actuellement
Leïla dans Les Pêcheurs de Perles.
Dans Les Pêcheurs de Perles.
En plus, elle est sur place, formidable.
Elle est sur place, on l'avait pas calibré ça, mais ça tombait plutôt bien. Et il m'a dit, j'aimerais faire une version avec orgue, donc l'orgue remplaçant l'orchestre, de cette pièce que moi-même je ne connaissais pas à l'époque, La Voix humaine de Poulenc. Et donc on aura, et c'est vrai que c'est étonnant, on fait un opéra dans une église, je précise, c'est au Temple du Salin, et il y aura quand même une mise en espace avec Katharina Staldor qui aura travaillé un peu un intérieur.
Et oui, parce que c'est une pièce à la base, quoi.
C'est une pièce.
Certes, mais c'est théâtralisé.
Donc voilà l'intimité d'une chambre à coucher avec cette femme qui, en direct, apprend qu'elle est
lâchée par son mari.
Par son mari ou son amant. Je crois que la pièce n'est pas très claire sur ce sujet-là. Mais clairement, il s'agit du dépit amoureux et la femme révèle en fait tous les sentiments qui la traversent dans ces instants.
Il y a une très belle version qui existe avec Régine Crespin. Je me demande même si ce n'est pas elle qui l'a créée. Je ne sais plus l'œuvre de Poulenc.
J'ai eu la chance d'entendre Denise Duval à Toulouse il y a bien longtemps.
Oui, j'imagine.
Oui, elle-même, la créatrice.
Donc, c'est vraiment une curiosité. Et puis, c'est une œuvre magnifique. Que ce soit le texte, tout ce qu'en a fait Poulenc, c'est formidable. Et puis, ça sera l'occasion de revoir Anne-Catherine Gillet qui triomphe actuellement sur la scène du Capitole dans le rôle de Leïla des Pêcheurs de Perles. Jeudi 12 octobre à 20h, cathédrale Saint-Étienne. On y retourne avec un grand récital de l'organiste Benjamin Allard qui va jouer l'intégrale des célèbres sonates en trio de Jean-Sébastien Bach. Alors ça va être un des grands moments du festival avec un habitué Toulouse des Orgues.
Oui, alors Benjamin Allard, c'est vrai qu'il est non seulement habitué de Toulouse-les-Orgues, mais enfin c'est quelqu'un qui a une grande carrière et qui tourne beaucoup justement autour de la musique de Jean-Sébastien Bach. Il fait actuellement une intégrale de la musique de clavier, donc il enregistre toutes les œuvres d'orgue et de clavecin. Et du coup, ben voilà, il associe un peu son nom propre à l'œuvre de Bach. Et donc, l'une des habitudes que j'ai, c'est quand même d'offrir un récital Bach, parce que Bach, c'est quand même le compositeur pour orgue. Et je sais aussi que y a tellement de pièces magnifiques. Là, les sonates en trio, c'est vrai que ça faisait plusieurs années qu'on n'avait pas entendu ça. Alors, ce sont quand même des pièces très particulières, parce que c'est une écriture atypique. Vous devez jouer avec vos deux mains et vos deux pieds une musique qui pourrait être composée pour trois instruments, type deux violons et un violoncelle. Donc, c'est très difficile à jouer juste techniquement. Ça demande beaucoup de maîtrise. Et après, ce sont des œuvres qui ne sont pas du tout liturgiques, parce qu'en fait, ce sont des sonates comme ça pourrait être des sonates de chambre. Et en même temps, clairement, c'est écrit pour l'orgue. On a des indices qui laisseraient penser que Bach a composé ça pour l'un de ses fils et que le niveau technique, c'est un peu pour faire challenge, mon gars. Si tu sais jouer ça, tu peux y aller dans le métier. Et en même temps, voilà, c'est, comme je dis, ce n'est pas du tout des œuvres liturgiques. Alors après, c'est vrai aussi que jouer les six suppose peut-être des petites respirations. Et ce qu'a proposé Benjamin Allard, c'est de mettre chaque fois un choral entre les deux, ce qui fait qu'on casse la régularité de la forme sonate, de la sonate, pour avoir autre chose.
Et donc, un peu de variété dans le déroulé du concert.
Voilà.
Eh bien, on va écouter justement la sixième des sonates en trio de Jean-Sébastien Bach, la BWV 530. C'est le premier mouvement vivace, interprété bien sûr par Benjamin Allard. Le premier mouvement vivace de la sonate numéro 6 BWV 530, interprété par Benjamin Allard, un aperçu du programme du concert qu'il donne jeudi 12 octobre à 20h à la cathédrale Saint-Étienne. Et le vendredi 13, on retourne au Temple du Salin pour une autre proposition fort originale, un concert intitulé Lily Joel, je ne sais pas si on dit Lily Joel ou Lily Joel, Play the Organ. Et c'est une soirée en partenariat avec le festival Jazz sur son 31. Ça mérite quelques explications, Yves Reichsteiner.
Oui, il va me falloir du temps. Non, c'est un concert qui est tout à fait atypique. C'est pour ça qu'il faut quelques explications.
C'est original, et oui, c'est pour le moins original.
Voilà. Alors, il faut commencer d'abord par parler des artistes. Les artistes, c'est Joseph Dumoulin, qui est un pianiste qui vient de la sphère jazz, mais qui s'est beaucoup fait connaître sur sa pratique du Fender Rhodes, et qui est quelqu'un qui improvise beaucoup, qui compose aussi pas mal. Et en fait, il a un jour rencontré la chanteuse belge Lynn Cassier, qui fait aussi du soundscape. C'est quelqu'un qui est aussi très créative. Elle ne fait pas uniquement de la chanson au sens classique, mais elle a une manière d'utiliser sa voix qui est très instrumentale. Alors, ils ont eu un temps de résidence à l'abbaye de Royaumont. Et là, Joseph Dumoulin a quitté le piano et les Fender Rhodes pour prendre le clavier du Cavaillé-École qu'il y a sur place. Et là, dans leur résidence, ils ont travaillé un programme qui est basé, accrochez-vous bien, sur les mélodies de Hildegard von Bingen, des mélodies du Moyen-Âge. Donc en fait, quand vous imaginez un pianiste de jazz avec une chanteuse qui vient de la création et de la sphère des musiques expérimentales travailler sur du Hildegard von Bingen, on se dit qu'effectivement, c'est pas très simple à expliquer. Par contre, quand on écoute, ça calme, c'est très beau.
Je confirme, et on va pouvoir s'en faire une idée tout de suite. C'est étonnant ce programme, avec une atmosphère assez planante, propice à la méditation. Écoutez cet extrait du programme Sibyl of the Rhine. Extrait de Sibyl of the Rhine, avec cette ambiance très étrange dans ce programme que vous allez pouvoir découvrir dans son intégralité lors du concert Lily Joel Plays the Organ au Temple du Salin vendredi 13 octobre à 20h, samedi 14 octobre pour l'avant-dernière journée du festival 2023. Et il y a bien sûr l'inévitable, l'incontournable Nuit de l'Orgue à partir de 20h30 à la Basilique Saint-Sernin. Et cette année, c'est une Nuit de l'Orgue allemande que vous nous proposez.
Oui, depuis 2 ans, en fait, je donne une thématique par pays. Donc cette année, l'Allemagne, avec donc 2 artistes allemands, Michael Schönheit qui vient de Leipzig et Angela Metzger qui vient de Munich. Ils sont un peu complémentaires. Michael Schönheit est plutôt fort sur le répertoire symphonique. Angela Metzger fait beaucoup de musique contemporaine. Et donc l'Allemagne, c'est un pays qui a une telle culture musicale qu'il est assez facile de dérouler des kilomètres de musique de qualité extraordinaire. Donc il y aura évidemment du Bach, il y aura du Max Reger également, il y aura du Brahms, du Schumann,
Mendelssohn,
etc.
Et même donc, du Wagner, j'ai vu.
Une transcription de pièces de Wagner, exactement.
Angela Metzger, qui était venue donner la Nuit de l'Orgue en 2015, il me semble.
Elle était venue effectivement jouer déjà au festival. Elle était très jeune à l'époque. Elle est un peu moins jeune aujourd'hui, mais encore plus engagée et encore plus active dans le domaine de la musique contemporaine.
Et pour finir, concert de clôture dimanche 15 octobre à 17h à Saint-Pierre-des-Cuisines pour une grande première. Oui. L'Orchestre National du Capitole va s'y produire aux côtés d'un orgue. Et cet orgue, eh bien, c'est l'Explorateur, l'instrument que vous avez fait construire, Yves.
Oui, alors effectivement, ce concert, je l'attends un peu parce que il y a plusieurs symboles réunis. Le premier, c'est qu'on renoue une forme de partenariat avec l'orchestre. On avait essayé quand même beaucoup de choses à la halle au grain, et j'avoue qu'après de nombreuses années, on arrivait au bout un peu de ce qu'on pouvait proposer, parce qu'il n'y a toujours pas d'orgue à la halle au grain, ça vous l'aviez remarqué. Donc là, le Jean-Baptiste Fra, le responsable d'orchestre, m'a dit, mais écoutez, on peut envisager qu'une partie ou tout l'orchestre se produise hors les murs de la halle au grain, ce qui était une grande nouveauté pour nous. Donc en fait, nous avons programmé un concerto de Poulenc où nous avons les cordes de l'orchestre du Capitole plus un timbalier et qui se produiront donc à Saint-Pierre-des-Cuisines, un lieu que j'aime beaucoup pour l'acoustique excellente que vous
et
connaissez.
Et qui a un grand plateau en plus.
Qui a un grand plateau, mais qui n'a pas d'orgue non plus.
Et
donc il a fallu effectivement y amener cet instrument sur lequel nous avons beaucoup peiné et sur lequel nous travaillons encore d'arrache-pied, parce que c'est un projet, comme vous le savez, un peu expérimental. C'est un prototype avec des différents aspects technologiques novateurs, avec tous les risques que ça suppose. L'instrument était attendu en 2022. Il n'a pas été au rendez-vous, comme vous le savez. Donc il est au rendez-vous en 2023. Et donc là, toute la présence de l'orgue, alors l'orgue est actuellement en train de jouer à la dorade en ce moment même. Et donc, on a eu beaucoup de problèmes la semaine passée. Je vous raconte pas le détail, ça n'a aucun intérêt. Mais ce matin, moi et le facteur, on était assis à la dorade et on entendait Thomas Hospital improviser sur l'orgue. Et pour la première fois, on avait un sourire jusqu'aux oreilles, parce que c'est un pur miracle. Et que d'avoir un orgue qui se transporte et qui sonne aussi richement, aussi pleinement, de façon aussi incroyable, on s'est dit que ça valait la peine de suer sang et eau.
Voilà, alors programme de concerto pour orgue, dont celui de Poulenc, mais il n'y a pas que du Poulenc, je crois.
Non, il y a également une pièce pour le même effectif de Jean-Baptiste Robin, un organiste-compositeur qui était venu à TLO l'année passée.
Voilà, la direction sera assurée par une chef, Sonia Ben Santamaria, et à l'orgue, ce sera Xinyong Li.
Oui, je précise aussi qu'il y aura toute une partie d'orgue solo, en fait, par Xinyong, avec des transcriptions de pièces d'orchestre et aussi une œuvre de Reger. Donc, en fait, l'orgue aura vraiment une partie assez importante. Donc, j'espère que l'instrument tiendra le coup. Mais
et
en
là,
tout cas,
ce sera vraiment, pour revenir à votre thématique, l'orgue intime. Dans l'écrin de Saint-Pierre des Cuisines. Enfin, Serge, c'est quand même extraordinaire, c'est une grande première à tout point de vue.
Absolument, un lieu de musique
l'orchestre
de chambre
à Saint-Pierre des Cuisines
de l'orgue en musique
avec
de
un
chambre.
Orgue.
Formidable.
Mais oui, je vous raconte une toute petite anecdote, on a une minute, c'est que je suis allé jouer avec une partie de mon orgue au festival Voix croisée d'Escalquins il y a quelques jours. J'accompagnais deux chanteuses dans un Stabat Mater de Pergolèse. J'avais pris une toute petite version de l'orgue, mais être avec un orgue sur scène à côté des chanteuses à 1m50 et d'avoir juste le son derrière, moi ça change ma vie de
quel
musicien.
Quel pied, vous rendez compte. Il y a une dizaine d'années, pour revenir à ce que vous disiez Yves, le concerto pour orgue de Poulenc avait déjà été donné par l'Orchestre National du Capitole avec Michel Bouvard à l'orgue, mais il était à distance. Alors je ne sais pas s'il était à Saint-Cernin ou à Saint-Étienne, peu importe, mais toujours est-il que c'est Kazuki Yamada qui dirigeait, c'était en 2012 il me semble, et on va écouter un extrait, je crois que c'est le quatrième mouvement. Le quatrième mouvement tempo allegro du concerto pour orgue de Poulenc dans la version donnée par l'Orchestre du Capitole lors de Toulouse des Orgues 2012 avec Michel Bouvard à l'orgue à distance et donc avec Kazuki Yamada à la direction. Voilà pour ce tour d'horizon des grands concerts en soirée de cette édition 2023. Bon, bien sûr, il y a beaucoup d'autres rendez-vous. Il y aura deux nuits du Jésus, dont une au Théâtre Garonne d'ailleurs.
C'est ça.
Mais tout est permis à Toulouse des Orgues. Voilà, bon.
Soyons fous.
Il y aura une conférence et un concert sur les femmes compositrices et organistes. Ça va être passionnant. Et comme par hasard, c'est une Américaine qui va donner ça. Jo Leilani Garbutt. Ça, ce sera à la Dalbat pour le concert. Donc, il y aura Cécile Chaminade, Mel Bonny, Sylvie Boulanger, Germaine Taillefer. Enfin, toutes ces compositrices qu'on redécouvre depuis quelques années. Il y aura deux concerts en famille à 11h les samedis 7 et 14 octobre à la Dorade. Et puis, il y aura la Missa Criolla et Requiem le samedi 14 octobre à 17h30 à Saint-Pierre-des-Cuisines. Et ça, c'est avec Lisdat. Hein.
Projet de Lisdat, Nadine Laurent au piano, l'ensemble Alturas pour faire la Missa Criolla et puis l'orgue L'Explorateur pour accompagner les extraits du Requiem de Durufle.
Il porte bien son nom, L'Explorateur. On explore avec lui. C'est la fin de cette émission. Avant de conclure, quelques rappels importants. D'abord, je voulais souhaiter un bon anniversaire avec un jour de retard à Michel Plasson. Il a fêté ses 90 ans hier, donc lundi. Bon anniversaire, Michel Plasson. Je rappelle que le festival Passion Baroque se poursuit à Montauban et dans le Tarn et Garonne jusqu'au 8 octobre. La programmation est consultable sur le site www.les-passions.fr et la billetterie est en ligne à l'adresse www.passionbaroque.festif.net. Il reste également quelques représentations des Pêcheurs de Perles à l'Opéra National du Capitole. Même si elles affichent a priori complet, vous pouvez tenter votre chance en vous connectant au site www.opéra.toulouse.fr. Au même endroit, ce mercredi 4 octobre à 20h, le concert spirituel dirigé par Hervé Niquet donne son programme God Save the King, avec notamment les Coronation Anthems et le Te Deum de Dettingen de Georg Friedrich Händel. Toulouse Guitare lance sa saison avec trois concerts, c'est vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 octobre à Saint-Pierre-des-Cuisines, dont celui de Thibaut Garcia le samedi à 20h. Réservation et billetterie en ligne sur le site www.toulouseguitare.fr. Et je rappelle enfin que le festival Toulouse des Orgues a lieu du 4 au 15 octobre. Concert d'ouverture ce mercredi 4 à 20h à Notre-Dame de la Dorade avec l'ensemble Dulci Jubilo. Programmation, réservation et achat des places en ligne sur le site www.toulouse-les-orgue.org. Un grand merci à Yves Rechsteiner et Serge Chauzy d'avoir participé à cette émission, ainsi qu'à Christophe Aubry de l'avoir réalisé. Podcast téléchargeable comme d'habitude dès aujourd'hui sur le site web de Radio Présence. Et merci à vous tous de rester fidèles à l'écoute de Mélomanie. Je vous souhaite une très bonne et très active semaine musicale.